21. Hodges range sa Prius à une quinzaine de mètres de l'entrée principale du lycée. La bordure du trottoir est peinte en jaune, mais il a une vieille carte policier en faction dans sa boîte à gants qu'il garde précisément pour les problèmes de stationnement de ce genre. Il la place bien en vue sur le tableau de bord. Quand la cloche sonne, il descend de voiture et s'appuie contre le capot, bras croisés, yeux rivés sur les portes. Gravé au-dessus de l'entrée figure la devise du lycée. L'éducation est le flambeau de la vie. Hodges a son téléphone à la main, prêt à passer ou à recevoir un appel, selon qui sort ou ne sort pas du lycée. L'attente est brève, car Pitzhaubers figure parmi le premier groupe de lycéens à se précipiter au dehors dans la chaleur de cette journée de juin et à dévaler les larges marches de granit. La plupart des jeunes vont par deux ou trois. Le petit Saubers est seul. D'autres vont solo, bien sûr, mais lui a une expression butée sur le visage comme s'il vivait déjà dans le futur et non dans l'ici et maintenant. Les yeux de Hodges sont toujours aussi bien entraînés et il trouve que ça pourrait être le visage d'un soldat se préparant au combat. Ou alors, le petit est juste tracassé par ses notes de fin d'année. Au lieu de se diriger vers les bus jaunes rangés le long du bâtiment sur la gauche, il tourne à droite. Vers où Hodges est garé. Hodges s'avance tranquillement à sa rencontre, tout en appelant Holly grâce à la touche de raccourci.
« Je l'ai, » prévient Jérôme.
Il coupe la communication sans attendre sa réponse. Le gosse s'écarte pour éviter Hodges sur le trottoir. Hodges fait un pas de côté pour lui couper la route.
« Hé Pete, t'as une minute ?»
Les yeux du gosse se fixent sur lui. Il est joli garçon, mais son visage est trop mince. Et il a le front grêlé d'acné. Ses lèvres sont si étroitement serrées qu'on ne voit presque plus sa bouche.
« Qui êtes-vous ? » demande le garçon.
« Ni oui, monsieur, ou que puis-je faire pour vous ? Juste, qui êtes-vous ? » Sa voix est aussi tendue que son visage.
« Je m'appelle Bill Hodges. J'aimerais te parler. »
Des gamins les dépassent, bavardant, se bousculant, riant, déconnant, rajustant leurs bretelles de sac à dos. Quelques-uns jettent un bref coup d'œil à Pete et au vieux mec aux cheveux blancs clairsemés, mais aucun ne manifeste un quelconque intérêt. Ils ont d'autres choses à faire et d'autres gens à voir.
« De quoi ?»«
Dans ma voiture, ce sera mieux. Nous serons plus tranquilles. »
Il désigne la Prius du doigt. Le gosse répète.
« De quoi ?»
Il ne bouge pas.
« Je t'explique en deux mots, Pete. Ta sœur Tina est copine avec Barbara Robinson. Je connais la famille Robinson depuis des années, ce sont des amis. Et Barb a persuadé Tina de venir me parler. Elle est très inquiète pour toi.
Pourquoi ?
Si tu veux savoir pourquoi moi, c'est parce que j'ai été inspecteur de police dans ma vie d'avant.
Une lueur d'alarme s'allume dans les yeux du gosse.
Si tu veux savoir pourquoi Tina s'inquiète, il vaudrait vraiment mieux qu'on n'en discute pas dans la rue.
Sans transition, la lueur d'alarme disparaît des yeux du gosse, et son visage est de nouveau inexpressif. C'est le visage d'un bon joueur de poker. Hodges a déjà questionné des suspects capables de neutraliser l'expression de leur visage comme ça. Et ce sont habituellement ceux qui sont les plus durs à faire craquer. Pour peu qu'on arrive à les faire craquer.
Je ne sais pas ce que Tina vous a dit, mais elle n'a aucune raison de s'inquiéter.
Si ce qu'elle m'a dit est vrai, elle pourrait bien en avoir.
Hodges gratifie Pete de son plus franc sourire.
Allons, Pete. « Je vais pas te kidnapper, je te le jure. »
Pete hoche la tête à contre-cœur. Quand ils arrivent devant la Prius, le gosse s'arrête net. Il a vu la carte sur le tableau de bord.
« Vous avez été inspecteur de police ou vous l'êtes toujours ?»«
Je l'ai été, » confirme Hodges. « Cette carte, disons que c'est un souvenir. Elle m'est bien utile parfois. Je suis à la retraite depuis 5 ans. Monte, je t'en prie. On parlera plus à l'aise. » Je suis venu en ami. Si on reste debout là plus longtemps, je vais fondre.
Et si je veux pas ?
Hodges hausse les épaules.
Alors t'es libre.
Bon, d'accord. Pas plus d'une minute alors, dit Pete. Je dois rentrer à la maison à pied aujourd'hui pour pouvoir passer à la pharmacie chercher un médicament pour mon père. Il prend du Vioxx, parce qu'il a été grièvement blessé il y a quelques années.
Hodges hoche la tête. Je sais, au City Center. J'étais l'inspecteur en charge.
Ah ouais ?
Ouais.
Pete ouvre la portière passager et monte dans la Prius.
Être dans la voiture d'un inconnu ne semble pas le rendre nerveux. Il est prudent et sur ses gardes, mais pas nerveux.
Hodges, qui a conduit environ 10 000 interrogatoires de suspects et de témoins au fil des années, est à peu près sûr que le gosse a pris sa décision. Mais il ne saurait dire s'il a choisi de lâcher ce qu'il a sur le cœur ou de le garder pour lui. D'une façon ou d'une autre, il ne va pas tarder à le savoir. Il contourne le véhicule et monte au volant. Ça ne paraît pas déranger Pete, mais quand Hodges met le moteur en route, le gosse se raidit et saisit la poignée de la portière.
« Relax, c'est juste pour avoir l'air conditionné. Il fait une foutue chaleur au cas où t'aurais pas remarqué. Surtout si tôt dans l'année, ça doit être le réchauffement clim.
Bon, traînons pas. Que je puisse passer prendre le médicament de mon père et rentrer chez moi. Que vous a dit ma sœur? Vous savez qu'elle a que 13 ans, hein? Je l'aime à mort, mais ma mère appelle Tina la reine du drame. »
Et il ajoute, comme si ça expliquait tout.
Avec sa copine Hélène, elle rate jamais un épisode de la série Pretty Little Liars, où les personnages sont de vraies menteuses.
Ok. Donc la décision initiale est de ne pas parler. Pas très surprenant. Le boulot maintenant, c'est de le faire changer d'avis.
Parle-moi de l'argent qui est arrivé par la poste, Pete.
Pas de raidissement du corps, pas de petit sourire entendu.
Il savait que j'allais parler de ça, pense Hodges. Il l'a su dès que j'ai prononcé le nom de sa sœur.
Il a peut-être même été prévenu à l'avance. Tina a pu changer d'avis et lui envoyer un texto.
« Vous voulez dire l'argent mystère ?» dit Pete. « C'est comme ça qu'on l'appelle ?»«
Ouais, c'est ça que je veux dire. »
« Ça a commencé à arriver il y a à peu près 4 ans. Je devais avoir l'âge qu'a Tina aujourd'hui. Une enveloppe adressée à mon père tous les mois environ. Jamais de lettre d'explication, juste l'argent.
$500.
Une ou deux fois, il a dû y avoir un peu moins ou un peu plus, je crois. J'étais pas toujours là quand l'enveloppe arrivait, et après les 3 ou 4 premières fois, papa et maman ont arrêté d'en parler.
De peur que ça leur porte malheur?
Ouais, genre. Et à un moment donné, Tini s'est mis dans la tête que c'était moi qui l'envoyais. Comme si j'aurais pu. J'avais même pas d'argent de poche à l'époque.
Si ce n'est pas toi, qui est-ce?
J'en sais rien.
On dirait qu'il va s'en tenir à ça, et puis il continue. Hodges écoute paisiblement, espérant que Pete en dise trop. Ce gosse est intelligent, de toute évidence, mais parfois même les plus intelligents en disent trop.
Vous savez, à Noël, aux informations, on entend toujours des histoires de gens qui distribuent des billets de $100 dans un Walmart ou un autre.
Ouais, je sais.
Je pense que c'est un truc comme ça. Quelqu'un de riche a décidé de jouer les Pères Noël pour un des blessés du City Center, et il a choisi mon père au hasard dans la liste.
Il se tourne pour regarder Hodges en face pour la première fois depuis qu'ils sont montés dans la voiture. Il a les yeux écarquillés, le regard grave et totalement pas crédible.
Pour ce que j'en sais, il envoie peut-être de l'argent aux autres aussi. Probablement ceux qui ont été le plus grièvement blessés et ont dû arrêter de travailler.
Hodges pense. Bien joué, petit. Ça pourrait être assez logique, en effet.
Distribuer des billets de $100 à 10 ou 20 personnes au hasard à Noël est une chose. Distribuer $20 000 à une seule famille pendant 4 ans en est une autre. Si on rajoute d'autres familles, on arrive à une petite fortune.
C'est peut-être quelqu'un qui est à la tête d'un fonds d'investissement, dit Pete. Vous savez, de ces gens qui se sont enrichis pendant que tous les autres s'appauvrissaient et qui se sentent coupables.
Il ne regarde plus du tout Hodges. Maintenant, il regarde droit devant lui à travers le pare-brise. Il dégage une odeur particulière, semble-t-il à Hodges. Pas une odeur de sueur, mais de fatalisme. De nouveau, Hodges pense à un soldat se préparant au combat, sachant qu'il a 50% de chances d'être blessé ou tué.
Écoute-moi, Pete. C'est pas l'argent qui m'intéresse.
C'est pas moi qui l'ai envoyé.
Hodges en rajoute une louche. Ça a toujours été sa meilleure stratégie.
Ça a été une aubaine, et tu l'as utilisé pour aider tes parents à se sortir d'une situation difficile. Ce n'est pas une mauvaise action, c'est une action admirable.
C'est pas tout le monde qui penserait ça, dit Pete. Si c'était vrai, je veux dire.
Tu te trompes. C'est ce que penseraient la plupart des gens.
Et je vais te dire une chose que tu peux prendre pour une certitude absolue, parce qu'elle est basée sur 40 ans d'expérience de flic. Aucun procureur dans cette ville, aucun procureur dans ce pays, n'oserait inculper un gamin qui aurait trouvé de l'argent
et l'aurait utilisé pour aider sa famille, sachant que son père avait d'abord perdu son travail puis eu les jambes écrasées par un cinglé. La presse exécuterait l'homme ou la femme qui chercherait à engager des poursuites pour ça. Pete se tait, mais sa gorge remue comme s'il retenait un sanglot. Il veut parler, mais quelque chose le retient. Pas l'argent, mais quelque chose lié à l'argent. Ça doit être ça. Hodges est curieux de savoir d'où venait cet argent envoyé chaque mois par la poste. N'importe qui serait curieux de le savoir, mais il est bien plus concerné par ce que trame ce gosse maintenant.
Tu leur as envoyé l'argent.
Je vous répète que non.
Et ça a été comme sur des roulettes. Et puis tu as remporté un autre gros lot, mais qui t'a moins bien réussi.
Dis-moi ce que c'est, Pete. Laisse-moi t'aider à arranger ça.
Un instant, le gosse tremble, au bord de la révélation. Puis ses yeux se déplacent vers la gauche. Hodges les suit et voit la carte qu'il a laissée sur le tableau de bord. Elle est jaune, la couleur de la prudence, la couleur du danger. Policier en faction. Il regrette amèrement de ne pas l'avoir laissée dans la boîte à gants et de ne pas être allé se garer 100 mètres plus loin.
Bon Dieu, il fait de la marche tous les jours. Qu'est-ce que c'est que 100 mètres à pied?
Il les aurait facilement parcourus.
« Il n'y a rien à arranger, » dit Pete.
Il parle maintenant d'une façon aussi mécanique que la voix générée par ordinateur qui sort du GPS de bord de Hodges. Mais on voit son pouls battre à ses tempes. Il tient ses mains étroitement crispées sur ses genoux et son visage est perlé de sueur en dépit de l'air conditionné.
« J'ai pas envoyé l'argent. Il faut que j'aille chercher les médicaments de mon père. »
« Écoute, Peter. » Même si j'étais encore flic, cette conversation n'aurait aucune valeur dans un tribunal. Tu es mineur, et il n'y a aucun adulte présent pour te conseiller. En plus, je ne t'ai pas fait connaître tes droits.
Hodges voit le visage du gosse se fermer comme un coffre-fort de banque. Il a suffi d'une formule. Fais connaître tes droits.
Je vous remercie de votre sollicitude,
dit Pete de cette même voix de robot poli. Il ouvre la portière.
Mais j'ai pas besoin de votre aide, vraiment.
Et pourtant si, dit Hodges.
Il extrait une de ses cartes professionnelles de sa poche de poitrine et la lui tend.
Prends ça. Appelle-moi si tu changes d'avis. Quel que soit le problème, je pourrai t'aider.
La portière se referme. Hodges voit Pete Sauber s'éloigner d'un pas vif. Il remet lentement la carte dans sa poche et pense « Merde, j'ai tout fait foirer. » Il y a encore 6 ans, peut-être même 2, je l'aurais eu. Mais incriminer son âge est trop facile. Il sait, à un niveau plus profond, plus analytique et moins émotif, qu'il n'a vraiment bien joué à aucun moment. Penser qu'il aurait pu obtenir un résultat était une illusion. Pete s'est armé si solidement pour le combat qu'il est psychologiquement incapable de faire machine arrière. Le gosse est déjà devant la pharmacie City Drug. Il sort l'ordonnance de son père de sa poche arrière et entre. Hodges appelle Jérôme.
Bill, comment ça s'est passé?
Pas bien. Tu connais City Drug?
Ouais, bien sûr.
Il entre chercher des médicaments. Ramène-toi devant la pharmacie aussi vite que possible. Il m'a dit qu'il rentrait chez lui ensuite, mais ça peut être vrai ou pas. Et je veux savoir où il va. Tu penses pouvoir le filer? Il connaît ma voiture, mais pas la tienne.
Pas de problème, j'arrive.
Moins de 3 minutes plus tard, Jérôme tourne le coin de la rue. Il se glisse dans une place de stationnement que vient de libérer une maman après avoir récupéré 2 crevettes qui ont l'air bien trop jeunes pour être au lycée. Hodges démarre, adresse un salut à Jérôme au passage et se dirige vers le poste d'observation de Holly dans Garner Street, tout en appuyant sur la touche raccourcie de son numéro. Ils pourront attendre ensemble le rapport de Jérôme.